Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges.
Bienvenue dans cette dernière séance de ce cours consacré à différents aspects de la topologie en physique des matériaux quantiques. Aujourd'hui, on va parler plus en détail de matériaux moirés, et plus précisément des bicouches de graphène twistées. Je ne sais pas très bien comment il faut traduire « twistées », donc je vais utiliser « twistées ». Et le séminaire sera donné par Gwendal Fèvre. On a le grand plaisir de l'avoir aujourd'hui. Il va nous parler de ces très belles expériences qui ont révélé les statistiques fractionnaires des anions dans les foils quantiques fractionnaires. Et évidemment, c'est un sujet de séminaire qui est bien en relation avec les deux cours qui ont été donnés sur les foils quantiques fractionnaires. Donc merci Gwendal d'avoir accepté cette invitation. Alors avant que je dise quoi que ce soit, je voudrais remercier quelques collègues qui m'ont vraiment beaucoup aidé à entrer un peu dans le domaine des matériaux moirés et en particulier du graphène en bicouche twistée. J'ai eu des discussions pour préparer ce cours, en particulier avec Valentin Crépel qui est actuellement à l'Université de Toronto, Nicolas Regnault, qui a donné un séminaire dans le contexte de ce cours, André Bernevig, Giorgio San Giovanni, qui était en visite au collège pas plus tard qu'hier, et Lorenzo Crippa. Plusieurs de ces personnes sont des co-auteurs de cet article ici, qui a eu aussi des suites, sans que j'en sois moi-même co-auteur. Et donc, un certain nombre de choses que je vais vous dire dans la deuxième moitié du cours sont liées à cet article. Alors, on a déjà vu lors du séminaire de Dimitri Efetov que quand on inclinait avec un petit angle une couche de graphène par rapport à l'autre, on obtenait un motif interférentiel de moiré. Je vais revenir exactement sur ce que ça veut dire dans la suite. Et j'avais montré cette petite animation, et Dimitri en a beaucoup parlé dans son séminaire. Il y a des valeurs magiques, dites magiques, des angles, qui conduisent à l'existence d'une bande extrêmement plate, proche du niveau de Fermi. Donc ce que vous voyez ici, c'est une petite animation que j'ai trouvée sur le web, qui vous montre comment les cônes de Dirac que vous voyez ici, les cônes de Dirac qui vous sont familiers dans le contexte du graphène, quand on tourne une couche par rapport à l'autre, s'écrasent pour devenir des bandes très très plates. Alors elles ne sont pas exactement des niveaux complètement localisés sans énergie cinétique, mais elles en sont très proches avec une largeur de bande de l'ordre du millivolt, donc extrêmement plate. Ce qui évidemment ouvre plein de possibilités, puisqu'à ce moment-là, on est dans un régime où les interactions de Coulomb vont être considérables par rapport à la largeur de bande, même en tenant compte de l'écrantage éventuel. Et on va avoir plein d'effets intéressants de fortes corrélations. Et je ne vais pas revenir sur toute la zoologie des effets physiques qui ont été découverts dans les bicouches de graphène twisté, puisque Dimitri a fait un très beau séminaire sur ce sujet le 13 mai. Mais vous avez vu des isolants, des effets topologiques. Et en 2018, la grande découverte de la supraconductivité dans ces systèmes, mais aussi des états métalliques inhabituels, comme des résistivités linéaires en température, le fameux régime de métal étrange, toute une zoologie de phénomènes. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ces matériaux des matériaux de moiré? Donc, je pense que vous le savez tous, mais j'ai été retrouvé sur Wikipédia la description de ce que c'est qu'une moire. Donc en fait, c'est un terme qui vient de l'arabe, en fait, et qui est utilisé dans le domaine des tissus, où on prend deux trames, on les déplace légèrement l'une par un petit angle, l'une par rapport à l'autre. Donc vous voyez ici ces motifs interférentiels, qui sont exactement le genre de motifs qui sont réalisés dans le contexte des matériaux bidimensionnels de moiré ou des matériaux bidimensionnels twistés. Donc, en particulier, pour un certain nombre de mes collègues qui pensent que moiré est une personne et qui mettent une majuscule Voilà, donc je remets ici le diagramme de phase qui a été montré par Dimitri Fetov. Alors ça, c'est un diagramme de phase, je dirais, distillé à partir de plusieurs échantillons, donc avec une sélection statistique des échantillons, et c'est probablement ce que vous pouvez trouver de plus récent qui décrit les aspects communs de cette physique entre les différents échantillons, puisque Dimitri nous a bien expliqué dans son séminaire que ces bicouches de graphène étaient quand même des matériaux où il y avait des contraintes mécaniques, de la relaxation, etc., que la fabrication d'échantillons était vraiment un élément très important. Et ce diagramme des phases, il tente de montrer ce qui est générique. Et donc vous voyez ici que en fonction du remplissage des bandes, alors on va voir dans la suite qu'on peut mettre jusqu'à 8 électrons dans ces bandes plates. Donc le remplissage ici va de moins 4 à 4, en comptant à partir de la neutralité de charge, où on aurait 4 électrons dans ces 8 bandes. Donc vous voyez ici, au remplissage commensurable, des états qui ont tendance à être des états isolants. Alors est-ce qu'il y a vraiment un gap ou pas vraiment un gap ? C'est un point qui peut être discuté, mais essentiellement des états très très résistifs qui évoluent en température vers un état qu'il avait appelé ici semi-métallique. Et puis quand on dope en dehors de ces remplissages commensurables, des phases métalliques qui, à basse température dans ce régime bleu, peuvent être des métaux, je dirais, qui ont l'air relativement conventionnels avec des résistivités qui s'approchent de T carré. Mais en revanche, dans ces zones roses, ce qui est appelé ici métal étrange, qui est un terme qui désigne des résistivités qui ne sont pas quadratiques en température, donc pas conformes à la théorie de Landau des liquides de Fermi, mais plus petites que la limite de Motieff-Riegel, c'est-à-dire correspondant quand même à des grands libres parcours moyens. Donc c'est quelque chose dont on a pas mal parlé dans des cours précédents. Donc vous voyez un diagramme de phase extrêmement riche, et en fait, comme vous le savez tous et toutes, je pense, ce domaine n'est évidemment pas du tout limité au graphène. Il y a maintenant des centaines de composés qui sont des composés bidimensionnels en multicouches avec des couches faiblement couplées par interaction de Van der Waals les uns par rapport aux autres, en particulier les fameux dicalcogénures de métaux de transition qui donnent une énorme famille de matériaux qui peuvent être twistés ou non et qui correspondent qui conduisent à toutes sortes de phénomènes physiques passionnants où la topologie, les effets de corrélation et les effets de structure de bande jouent tous entre eux pour donner de la physique très riche. Alors, il ne faudrait pas non plus penser que tous les matériaux de Moiré sont nécessairement des matériaux dans lesquels il y a un angle entre les deux couches. En réalité, on peut aussi faire des matériaux de Moiré en faisant une bicouche avec un désaccord de maille du réseau d'une couche par rapport à l'autre. Donc en particulier dans le groupe de Cornell, de Jay-Chan et Kinfine-Mack, ils ont beaucoup étudié des systèmes comme molytelluride sur tungstène diselénide, qui ne sont pas forcément des systèmes twistés, mais qui sont des systèmes où le désaccord de maille conduit aussi à un motif de Moiré. Le sujet est tellement riche que la recherche de manière systématique en utilisant les méthodes de calcul de structure électronique de systèmes qui soient twistables, parce qu'ils ne le sont pas forcément tous, et de systèmes dans lesquels il y a de la topologie intéressante, a fait l'objet d'études systématiques par génération d'un très grand nombre de matériaux. Et donc je vous ai mis ici quelques références. Il y a cette grande collaboration ici, basée en particulier à Princeton et à San Sebastian, je pense, Bilbao, qui réunit beaucoup de scientifiques du domaine, des expérimentateurs, des théoriciens, des chimistes et des physiciens, dans lesquels ils ont, dont Nicolas Regnault d'ailleurs est un des co-auteurs, dans lesquels ils ont étudié, essayé de cataloguer des centaines de matériaux. En fait, il y a même des milliers de candidats dans cet article, qui soient des candidats pour faire de, qui soient twistables, donc pas avec lesquels on peut faire des motifs de moiré. Un autre article récent, très récent en fait, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est cet article de Valentin Crépel, Jennifer Cano et Naoto Nakatsuji, dans lesquels, de nouveau, par des méthodes de high throughput, on recherche de la topologie intéressante dans les matériaux de moiré avec des bicouches twistées. Et cet article, il utilise une caractérisation du nombre de Chern par simplement le comptage aux différents points de Dirac du système correspondance en gap. Donc, vous vous souvenez qu'il y avait différentes manières de calculer le nombre de Chern. On peut le calculer en intégrant toute la courbe de Berry sur la zone, mais on peut aussi le calculer en regardant seulement certains points dans la zone de Brillouin. Et en fait, cet article, c'est exactement ce qu'il utilise. Je ne vais pas en parler en détail, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder ça. C'est très récent, et là aussi, il y a des centaines de matériaux qui sont catalogués dans cet article comme des candidats possibles de topologie intéressante. Et puis, il y a quelques années, on avait écrit avec André Rubio et Dante Kenes cet article de revue qui mettait en évidence le fait que ces systèmes de moiré étaient des sortes de simulateurs quantiques. On essaie de damer un peu le pion aux gens des atomes froids. Et de fait, il y a un contrôle remarquable de la physique de ces systèmes en agissant sur d'une part les matériaux, les angles de twist, mais également la capacité remarquable de pouvoir faire des sortes de dispositifs électroniques, donc vraiment des devices où on est des grilles qui permettent de contrôler les potentiels électrostatiques dans ces systèmes. Donc en fait, cette physique, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle est à la frontière entre la physique des matériaux découverts ou synthétisés dans le laboratoire du chimiste et la physique des dispositifs électroniques. Donc elle réunit vraiment la physique des matériaux quantiques et ce qu'on appelle encore en France la physique mésoscopique, si on veut. Voilà, donc voilà par exemple un exemple de tables qui se tiraient d'un de ces articles, de l'article qui est ici, qui vous montre toute une série de matériaux, beaucoup sont des dicalcogénures de métaux de tension, mais pas que, avec différents critères sur les angles de twist, le gap, la topologie, etc. Donc vous voyez un domaine, c'est un peu juste pour vous donner une idée de la richesse incroyable de ce domaine. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est, après cette introduction très introductive, je voudrais un petit peu rentrer dans le dur du sujet, le reste du cours. Donc aujourd'hui, je n'ai pas utilisé le tableau, ça va être entièrement sur slides. Le reste du cours va être consacré au graphène twisté. Et je voudrais faire en gros trois choses. La première, ça va être de vous montrer comment fonctionne la structure électronique de ce système, donc pourquoi on génère des bandes plates, donc le modèle canonique qui a été la découverte en fait de l'existence, la proposition théorique de l'existence d'angles magiques où les bandes sont particulièrement plates, c'est l'article de Bistritzer et MacDonald que je vais essayer de décrire un petit peu à un certain niveau de détail. Ensuite, je vais vous montrer une limite dans laquelle ces bandes sont non seulement presque plates, mais deviennent exactement plates, donc deviennent similaires à des niveaux de Landau, donc c'est ce qu'on appelle la limite chirale, et je vais essayer de vous montrer à peu près comment ça marche, dans la mesure où je l'ai compris moi-même. Et puis, dans une dernière partie, je vais vous montrer un petit peu les effets d'interaction, quelques effets d'interaction sur ce système. Donc c'est un petit peu le menu du cours d'aujourd'hui. Donc, motif de moiré. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un dessin qui représente deux couches de graphène avec les réseaux en nid d'abeille qu'on a déjà bien étudiés, en particulier au cours 2 et 3, avec un petit angle, l'un par rapport à l'autre. Et vous voyez ici que ce dessin est un cas où il y a néanmoins un motif périodique qui apparaît. Donc si vous regardez ici cette zone, vous voyez que les deux hexagones bleu et rouge sont exactement en coïncidence l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est une région qu'on appelle empilement AA ou AA stacking, où les sommets A sont dans la couche 1 sont alignés ou presque alignés sur ce dessin avec les sommets de la couche 2. Et vous pouvez essayer de retrouver dans le motif les autres endroits où cette coïncidence se produit, donc si elle se produit par ici, et vous voyez qu'ici, il y en a un autre, ici, il y en a un autre, etc. Et donc, on a généré dans ce système une nouvelle périodicité que j'ai essayé de représenter ici, qui est clairement beaucoup plus grande que la maille du réseau originel dans un seul feuillet de graphène, ici peut-être une quinzaine de mailles du réseau. Alors, bien entendu, il n'est pas exact que pour n'importe quel angle de twist entre les deux couches, on va avoir un motif strictement périodique. Il y a des angles précis pour lesquels il y a une commensurabilité et on va retrouver un motif périodique. Et en fait, ça a été bien expliqué dans un article assez pionnier il y a déjà presque 20 ans par Castroneto, Pérez et López dos Santos, dans lesquels ils ont donné l'expression qui me donne les angles où le motif de Moiré est périodique et non pas simplement quasi-périodique. Et cette expression est donnée ici, donc il est paramétrisé par un entier positif, et pour tous ces angles de twist, on a un motif périodique. Alors, je me suis amusé à tracer cet angle en fonction de l'indice n ici. Donc cette courbe, c'est une courbe qui est comme ça, et les points rouges sont tous les entiers qui correspondent à des motifs commensurables, à des systèmes réellement périodiques. Et puis ici, j'ai mis des lignes bleues qui représentent les différents angles magiques pour lesquels la bande devient particulièrement plate, qu'on va explorer dans les slides suivants, donc les angles de Bistritzer, MacDonald. Et donc vous voyez que le premier, alors quand on dit le premier, en fait c'est le plus grand angle de twist, il est un tout petit peu plus grand qu'un degré. Et le point que je voudrais souligner, c'est que si je regarde les n grands dans cette expression, donc les angles qui tendent vers zéro, il y a une accumulation de ces angles de twist commensurables. Et ça indique déjà qu'il devrait être possible de décrire la structure électronique de ce système dans cette limite des petits angles par un modèle quasi continu. Et la beauté du modèle de Bistritzer-MacDonald, c'est qu'en fait, on décrit ces systèmes twistés par un modèle de structure électronique dans le continu, qui est un modèle pour lequel, même pour les angles incommensurables, on a essentiellement un théorème de Bloch et une périodicité dans le modèle continu effectif. Donc on va voir ça dans un instant. Cet article contenait une autre observation d'ailleurs, pas seulement cette chose-là, ils ont aussi commencé à étudier la structure électronique de ces bicouches twistées, et ils avaient calculé la manière dont la vitesse des cônes de Dirac était abaissée par un petit twist, donc comment cette vitesse était réduite, et ils avaient fait un calcul perturbatif dans un paramètre qu'on va voir dans la suite, qui est essentiellement lié à l'angle, qui nous indique que, effectivement, quand on twiste, la vitesse des cônes de Dirac devient plus faible. Mais la notion d'angle magique est arrivée plus tard dans l'article de Bistritzer et MacDonald. Alors, comment ça marche, la fermiologie de système? On va d'abord mettre en place la géométrie. Donc, quelque part, je ne sais pas où, j'avais représenté, je pense que c'était avant, quelque part ici. Voilà. J'avais représenté les deux zones de Brillouin du graphène. Donc vous vous souvenez que dans le graphène, on a une zone de Brillouin hexagonale avec deux points K et K' qui sont inéquivalents par symétrie au vertex de cette zone de Brillouin hexagonale et qui sont reliés par la symétrie de renversement du temps. Ce sont les points où se développent les cônes de Dirac dans la structure électronique du graphène. Tous les autres sommets sont soit équivalents à K, soit équivalents à K'. Et on peut représenter les choses de cette manière. Donc quand on twiste un petit peu par cet angle θ les deux zones de Brillouin par rapport à l'autre, on obtient une mini-zone de Brillouin du nouveau système périodique. Donc maintenant, on a un système qui a une grande périodicité, donc qui a une toute petite zone de Brillouin dans l'espace des quasi-moments. Et cette petite zone de Brillouin ici, elle est représentée là. Et vous voyez qu'elle a elle-même des points, des points K1 et K2 hein, qui sont séparés ici par ce petit angle θ qui est l'angle de twist. Donc ce qui est représenté sur ce graphe ici, ce sont les deux zones de Brillouin twistées l'une par rapport à l'autre et la mini-zone de Brillouin du système de Moiré. Et donc dans la suite, faites attention, je vais désigner par Km et Km' les points K et K' de la mini-zone de Brillouin, et grand K et grand K' restent les points de la zone de Brillouin de chaque feuillet de graphène individuellement. Alors on peut regarder, donc ce qu'on voudrait déjà comprendre, c'est quelle est la périodicité de ce système. Donc quelle est la période de Moiré? On a vu qu'on générait une période de Moiré beaucoup plus grande que la maille du réseau. Donc quelle est cette période de Moiré? Et pour faire ça, on peut regarder les vecteurs du réseau réciproque de chacun des sous-réseaux. Donc on avait vu dans le cours 3, je pense, ou 2 ou 3, comment construire les vecteurs du réseau réciproque d'un feuillet de graphène. Maintenant, pour chacune des couches, il suffit de tourner ces vecteurs du réseau réciproque par un angle plus θ sur 2 et moins θ sur 2. Donc vous obtenez ces deux vecteurs du réseau réciproque tournés ici. Et le plus petit vecteur du réseau réciproque du réseau Moiré est donné par la différence de ces deux vecteurs qui est écrite ici. Et donc vous voyez que c'est quelque chose qui, aux petits angles, va se comporter comme 4π sur racine de 3 fois θ. Donc un vecteur du réseau réciproque du système de Moiré qui devient tout petit, ce qui correspond à une périodicité très grande dans l'espace réel. Donc la norme de ce petit vecteur de Moiré du réseau réciproque est donnée ici. Et dans un réseau Honeycomb, la relation entre la période et la norme du vecteur du réseau réciproque est donnée par cette expression-là. Si on avait le graphène non twisté, ici, vous auriez simplement la maille du réseau de Bravais sous-jacent. Ah oui, un point important que je n'ai pas mentionné, c'est que dans le cours d'aujourd'hui, j'utilise une notation qui est un tout petit peu différente de ce que j'avais fait dans le cours 3. Dans le cours 3, j'avais appelé A la distance carbone-carbone dans le réseau du graphène. Ici, j'appelle A la maille du réseau triangulaire de Bravais sous-jacent. Donc il y a un facteur racine de 3 entre les deux. Je fais ça parce que c'est ce qui est souvent fait dans la littérature et je ne voulais pas m'emmêler les pieds en lisant les articles. Donc, vous voyez que cette relation et cette relation, elle me permet tout de suite de trouver la période, donc cette période LM qui était ici, hein, du réseau de Moiré sous-jacent, qui est donnée par A sur 2 sinus θ sur 2, donc c'est de la géométrie simple, ce qui veut dire qu'aux petits angles, cette période devient très grande, elle est de l'ordre de A sur θ. Donc la morale de tout ça, c'est que le fait d'introduire un angle entre les deux couches crée un super réseau de Moiré avec une très grande périodicité, beaucoup plus grande que A. Pour un angle de l'ordre de 1 degré, la période de Moiré est de l'ordre de 14 nanomètres. Et si vous regardez simplement le fait que la période du réseau de graphène est un quart de nanomètre, ça varie comme le carré, le nombre d'atomes dans le motif périodique varie comme le carré du rapport de ces deux longueurs. Et donc, ça vous dit tout de suite que dans la supercellule, il y a à peu près 10 000 atomes. Ce qui vous dit également que faire des calculs de structure électronique à partir des premiers principes, en utilisant des méthodes de DFT pour ces systèmes, c'est quand même assez costaud, parce qu'il faut traiter des mailles unités avec de l'ordre de 10 000 atomes. Il y a des spécialistes de ça, par exemple Kaxirax et son groupe à Harvard ont beaucoup développé ces méthodes. Et les calculs ab initio jouent un rôle important dans ce domaine. Mais le modèle continu dont je vais vous parler maintenant a l'avantage de pouvoir simplifier considérablement ces calculs. Il n'est pas complètement premier principe, mais il a l'avantage de pouvoir faire des calculs de manière beaucoup plus simple et aussi théoriquement, c'est un modèle qui est très utile. Si vous regardez, donc on va voir dans un instant qu'il y a un angle magique qui vaut à peu près un degré, justement, et donc si vous mettez un petit peu les nombres dans tout ça, on va voir que la largeur de bande du système est quelque chose de l'ordre de 10 mEV, et l'énergie de Coulomb écrantée, alors l'écrantage, on le verra aussi dans la suite, est essentiellement dû aux grilles qu'on met pour contrôler la tension électrostatique du système. Et donc, une valeur typique de l'énergie de Coulomb écrantée, ça va être quelque chose de ce genre. C'est en gros l'énergie de charge capacitive d'un de ces motifs de moiré auquel vous pouvez penser comme un gros point quantique, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui va être de l'ordre de 20 à 30 milliélectronvolts. Donc, vous voyez que là, on est dans une physique qui est complètement différente. C'est un territoire complètement nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans beaucoup de matériaux corrélés. Dans des cours précédents, il y a plusieurs années, j'ai beaucoup parlé de matériaux oxyde ou de matériaux à électrons F, dans lesquels les largeurs de bande sont plusieurs électronvolts, les interactions de Coulomb sont aussi plusieurs électronvolts. Il y a des effets de forte corrélation, parce que ces deux échelles sont comparables. Ici, de nouveau, on est dans un régime où ces deux échelles deviennent comparables, où on s'attend à des effets de forte corrélation, voire U beaucoup plus grand que la largeur de bande dans certains cas, mais avec un facteur 100 de différence sur les largeurs de bande. Donc ça induit toutes sortes de physiques nouvelles. En particulier, on peut aller, par exemple, regarder des effets de transport à très haute température en unité relative de la largeur de bande, des effets qui seraient complètement inaccessibles autrement, dans des situations plus conventionnelles. On peut aussi, et ça c'est un domaine extrêmement intéressant, générer des champs magnétiques effectifs dans le système. Donc si on regarde le nombre de quantum de flux par plaquette, on peut aller dans des régimes de très forts qui sont inaccessibles dans les matériaux normaux. Donc clairement, juste ces nombres vous montrent qu'on est dans un domaine où on va pouvoir faire de la physique nouvelle et différente dans ces systèmes. Alors, je continue un petit peu avec la géométrie du système. Donc, maintenant, ce que je dessine ici, c'est la mini-zone de Brillouin. Donc, c'était cet hexagone blanc, hein, c'est celui-là ici. D'accord ? Et donc, dans la mini-zone de Brillouin, j'ai le point K1 de la couche 1, le point K2 de la couche 2. Elles ont été un petit peu twistées l'un par rapport à l'autre, donc ici, c'est des positions différentes. Et ce qui est introduit dans ce slide, c'est les vecteurs Q1, Q2, Q3 qui relient un point K de la première couche avec un point K de la deuxième couche. Donc je peux les voir aussi comme la rotation par θ sur 2 du point K1 de la couche 1 et du point K de la d'un point K de référence de ma... Donc je prends ma couche de graphène, j'en tourne une de θ sur 2, l'autre de moins θ sur 2. K1, c'est la rotation par plus θ sur 2 de ce point K, et K2 par moins θ sur 2 de ce point K. Et la différence, simple trigonométrie, la distance entre ces deux points K dans l'espace réciproque, elle varie proportionnellement à l'angle. Les vecteurs Q1, Q2 et Q3 sont donc donnés par les expressions qui sont ici. Ils varient aussi proportionnellement à l'angle, et les vecteurs du réseau réciproque, c'est les différences en fait de ces vecteurs. Donc il y a deux vecteurs du réseau réciproque qu'on peut choisir, c'est un choix comme Q3 moins Q2 et Q1 moins Q3. Donc voilà un petit peu pour la géométrie de cette mini-zone de moiré dans l'espace réciproque, et puis on a vu l'espace réel il y a un instant. Donc avec ces notations et ces conventions, on peut introduire le modèle de Bistritzer-McDonald. Alors ça c'est vraiment le modèle donc dans le continu qui introduit un potentiel de moiré formulé dans le continu, qui a mis en évidence cet article, qui a mis en évidence l'existence d'angles magiques, Donc vous voyez, c'est un article de 2010, publié en 2011, qui a été suivi bien des années après, en 2018, par la découverte qui a fait exploser ce domaine, qui est dans le groupe de Pablo Jarlillo Herrero au MIT, la découverte de la supraconductivité dans ces bicouches de graphène twistées. Et ce trio, McDonald, Bistritzer et Pablo, ont eu le prix Wolf, par exemple, ainsi que toutes sortes d'autres distinctions pour avoir lancé ce domaine. Alors, comment marche ce modèle de Bistritzer-McDonald? Donc, en fait, les deux vecteurs K1 et K2 de Moiré, dans la mini-zone de Moiré, qui ont pour origine le point K d'un des feuillets de graphène, sont très loin de ceux qui ont pour origine le point K', qui est très loin, quelque part ailleurs, sur le grand hexagone. D'accord ? Donc déjà, on va pouvoir faire l'approximation, c'est une excellente approximation, qu'on peut complètement découpler ces deux systèmes. D'accord ? Donc maintenant, on va se limiter à une description de la structure électronique au voisinage d'un des points grand K. Et donc, ça va devenir un problème qui va faire intervenir un spinner à quatre composantes. Et ce spinner à quatre composantes, c'est un électron sur le sous-réseau A du feuillet 1, sur le sous-réseau B du feuillet 1. Donc, souvenez-vous, le graphène a une maillité à deux sous-réseaux, A et B, sur le sous-réseau A du feuillet 2, sur le sous-réseau B du feuillet 2. Donc, un Hamiltonien qui agit sur ce spinner-là. Et cet Hamiltonien, il est écrit ici. Donc ça, c'est une matrice 4-4. Cet objet ici, c'est l'Hamiltonien de Dirac, près des cônes de Dirac correspondants. Donc on avait écrit cet Hamiltonien comme sigma produit vectoriel K, où sigma sont les matrices de Pauli. Ici, Kx, Ky, il y a deux matrices de Pauli, sigma X et sigma Y. Et puis, il faut évidemment tourner chacun de ces vecteurs par plus ou moins θ sur 2. Là, il y a un choix de convention qui est qu'on a inversé A et B dans chacune des bicouches. Et puis une amplitude de saut, T de R, qui, elle, est écrite dans le continu, qui va avoir la périodicité du réseau de Moiré. Donc c'est un Hamiltonien qui est présenté ici comme un Hamiltonien 4-4 agissant sur ce spinner, mais vous voyez que c'est un Hamiltonien mixte qui fait à la fois intervenir l'espace K et l'espace réel décrit dans le continu. Alors l'approximation qui est faite dans le modèle de Bistritzer-McDonald, c'est qu'on va pouvoir écrire T de R simplement en se limitant aux trois vecteurs Q qui sont ici. Donc T de R va avoir une amplitude sur se décomposer sur ces trois vecteurs Q. Et les Tj ici sont des matrices 4-4 qui sont écrites là. Donc ces matrices 4-4, elles font intervenir des sauts des sauts par effet tunnel entre les deux couches, du sous-réseau A vers le sous-réseau A, et puis du sous-réseau A vers le sous-réseau B, avec des phases qui dépendent des vecteurs Q1, Q2, Q3. Donc ça, c'est la structure de la matrice T. Et on peut, par exemple, considérer le cas isotrope où toutes ces phases seraient égales. Je crois qu'il y a une typo ici, parce que quand on fait ça, il reste ces phases-là. Et tout ça conduit naturellement à un paramètre sans dimension qui est le paramètre naturel du problème, qui est l'amplitude de saut W, divisé par h bar vf kd θ. On a vu que kd θ, c'était la distance entre les deux points de la mini-zone de Brillouin. Et donc ça, c'est un paramètre sans dimension qui, en gros, vaut 0,56 divisé par θ quand on exprime θ en degrés. Et on verra que l'angle magique, c'est quand alpha prend une valeur particulière. Le premier angle magique, celui qui est près d'un degré, c'est quand alpha star vaut 1 sur racine de 3, comme on va le voir dans quelques instants. Alors là, j'ai écrit quelque chose pour le cas isotrope, mais il y a une limite très intéressante qui est la limite où l'effet tunnel n'a lieu que que de A vers B, et où il n'y a pas d'effet tunnel entre de A vers A, qui s'appelle la limite chirale, dont je parlerai un petit peu dans la suite, mais pour l'instant, on va considérer un W plus isotrope. Alors, vous voyez que dans le modèle de Bestritzer-McDonald dans le continu, on préserve la périodicité complète, donc le T de R, qui est cette somme de 3 exponentielles de IQR, il a exactement la périodicité du pattern de Moiré. Et on ne se préoccupe plus de savoir si on a un motif périodique ou quasi-périodique. On a un modèle effectif continu pour décrire ce système. Donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Bloch. Le potentiel est périodique. Et il faut penser à tous ces sauts répété entre les deux couches, qui va évidemment coupler tous les différents vecteurs d'onde entre eux. Donc, le vecteur K dans la première couche, et ses répliques par les vecteurs du réseau réciproque du réseau de Moiré, donc les vecteurs K plus N1G1 plus N2G2, ou G1 et G2, je les avais introduits précédemment, vont être couplés à tous les K plus QJ plus N1G1 plus N2G2. Donc on peut prendre cet Hamiltonien, et comme d'habitude quand on fait de la structure électronique, décomposer ça sur la base des ondes planes paramétrisées par G1, G2, et diagonaliser l'ensemble de l'Hamiltonien, en retenant quelques dizaines ou quelques centaines d'ondes planes pour obtenir la structure de bande. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Ça, c'est un dessin à peu près de la manière dont ces réseaux dans l'espace réciproque, ce réseau de moments, la tête de ce réseau de moments dans l'espace réciproque. Mais on peut comprendre ce qui se passe, en fait, en se limitant, dans un premier temps, au cas où G1 égale G2 égale 0. C'est-à-dire qu'on va coupler K dans le réseau 1 à K plus Q1 ou Q2 ou Q3 dans le réseau 2, dans la couche 2. Donc ça, ça va être beaucoup plus simple parce que c'est juste une matrice qui va être une matrice 8-8 qu'on peut regarder. Et en fait, ça suffit pour comprendre, enfin pour au moins voir apparaître le premier angle magique. Si on veut décrire les autres angles magiques, ceux qui sont plus petits, il faut diagonaliser cette matrice avec plus d'ondes planes dans le réseau réciproque. Donc ça, c'est un calcul qui est fait dans l'article de Bestritzer et McDonald qui fonctionne à peu près comme ça. On se limite à G1 égale G2 égale 0. Et du coup, on a une matrice 8-8 que vous voyez ici qui fait intervenir sigma.k qui est la dispersion de Dirac dans la couche 1 et puis ses répliques à k plus q1, k plus q2, k plus q3. On a des amplitudes de saut T1, T2, T3 et vous voyez qu'on peut en déduire un Hamiltonien effectif au voisinage du point du vecteur k dans la couche 1 en éliminant ce bloc ici. Donc ça, c'est juste le complément de Schur, si vous voulez. Vous éliminez ce bloc 6-6 pour obtenir un Hamiltonien infectif pour ce bloc de 2. Et cette expression est donnée là. Et après, c'est juste un petit peu de technologie des matrices de Pauli pour calculer cette expression-là. Et au final, je vous passe le détail des calculs, mais au final, quand on débobine l'expression qui est ici et qu'on utilise les expressions qui vont bien sur les matrices de Pauli, on trouve que le Hamiltonien effectif au voisinage du vecteur du quasi-moment K dans la couche 1 est donné par une nouvelle expression qui est de nouveau un cône de Dirac, mais cette fois avec une vitesse de Fermi renormalisée qui est donnée par cette expression-là, 1 moins 3 alpha 2 sur 1 plus 6 alpha 2. Alors vous voyez le dénominateur ici, il vient du fait qu'on a inversé cette matrice et donc on a des sauts répétés hein, qui vont faire intervenir des sauts répétés de Q1, de Q1, etc. En fait, on peut essentiellement interpréter cette formule, cette série géométrique, comme provenant des sauts répétés entre les deux couches. Chaque saut, un aller-retour, donne un facteur 3 alpha 2. Et si vous développez cette série géométrique, vous pouvez comprendre ça comme une formule de saut multiple. Et vous voyez qu'ici, si tant est que cette réduction soit correcte, mais en fait il se trouve qu'elle l'est, ça suggère qu'il y a une valeur magique de alpha, donc de ce paramètre sans dimension qui est lié à l'inverse de l'angle, où cette vitesse de Fermi s'annule. Donc où la bande, au moins au voisinage du point de Dirac, devient asymptotiquement plate. Alors elle n'est pas exactement plate, au ce sens qu'elle continue à avoir une largeur de bande finie, mais la vitesse du cône de Dirac s'annule. Et quand vous mettez les nombres, vous trouvez que ce alpha égale 1 sur racine de 3 correspond à un angle magique d'environ 1,05 degré. Donc ça, c'est quand même... Je pense que quand l'article de Bustesser et MacDonald est sorti, l'idée qu'on puisse prendre deux couches de graphène et en twister une d'un petit angle de 1 degré par rapport à l'autre de manière contrôlée, là je parle sous le contrôle des expérimentateurs dans la salle, ça a dû paraître quand même assez ambitieux comme idée. Et le fait que ça puisse être réalisé est quand même une chose assez belle. Vous verrez, en fait, je vais vous montrer dans la suite, qu'il y avait déjà des articles expérimentaux qui avaient étudié des flocons de graphène twistés avec des jolis résultats par STM, même avant l'article de Bustritzer et MacDonald. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si on veut regarder les angles magiques plus petits, donc la séquence d'angles magiques qui correspondent à des alphas plus grands, vous suivez mes lignes bleues dans mon graphe de tout à l'heure, il faut faire une diagonalisation plus sérieuse de cet Hamiltonien de Bustritzer et MacDonald en introduisant plus d'ondes planes. Et ici, cette courbe qui est tirée de leur article vous montre la manière dont la vitesse de Fermi est renormalisée par rapport à la vitesse de Fermi du graphène. Donc ici, vous avez le premier angle magique, le deuxième, le troisième, etc. Et entre les deux, la vitesse est finie. Donc, angle magique, voilà une petite animation, j'essaie de la faire marcher, qui est tiré de l'article de Cao et Tal, l'article du groupe du MIT qui a découvert la supra en 2018, qui vous montre, quand on change l'angle, c'est pas très facile de contrôler ce machin, je vais essayer de cliquer au bon endroit, voilà. Donc vous voyez les 6 points d'Irak. On change l'angle, on réduit l'angle. Toute cette structure de Dirac s'écroule. Il y a d'autres bandes qui viennent, évidemment, qui viennent du repliement du cône par la mini-zone de Brillouin. Hein. Et vous voyez qu'à l'angle magique, ce truc-là devient tout petit, avec une largeur de bande toute petite. Je vais essayer de vous le remontrer, c'est quand même assez joli. Voilà, on s'approche de l'angle magique. Et là, on est à l'angle magique où on a l'impression d'une galette complètement plate. En fait, quand on regarde la dispersion de cette bande, elle n'est pas exactement plate, mais elle a une largeur de bande qui est quelques milliélectronvolts, qui est représentée ici. Donc, ces deux bandes, il y a en fait deux bandes plates. Il y a deux bandes plates correspondant au point grand K de la couche de graphène sous-jacente et deux autres correspondant au point K', donc deux bandes par vallée. Et vous voyez qu'elles se touchent au point de K de la mini-zone de Moiré. Ça, c'est quelque chose qui est protégé par symétrie. En fait, c'est cette symétrie-là, qui est donc la rotation par rapport à l'axe Z, multiplié par le renversement du temps, qui protège ce contact entre les deux bandes ici. Et ces deux bandes, si elles étaient séparées par un gap, auraient chacune un nombre de Chern opposé, moins 1 et 1. Bon, là, c'est deux bandes qui se touchent, donc il n'y a pas de gap. Mais si, par exemple, vous prenez cette bicouche de graphène et vous imaginez que l'une est en coïncidence avec HBN, avec du nitrure de bord qui va introduire une brisure de symétrie d'un côté, eh bien vous ouvrez un gap et à ce moment-là vous avez deux bandes topologiques qui ont chacun un nombre de tchernes opposés. Et on est dans cette situation où ce groupe de deux bandes a un nombre de tchernes total qui est zéro. Mais donc on pourrait penser qu'il est vanierisable au sens du cours de la dernière fois. Mais en réalité, ce que Vishwanath et collaborateurs ont compris assez vite, c'est que bien qu'étant un groupe de bandes avec un nombre de tchernes zéro, en réalité, pour vanieriser ces deux bandes, il faut inclure d'autres bandes triviales. Donc c'est un cas de topologie fragile dans lesquelles la condition d'avoir la somme des nombres de tchernes égale zéro n'est pas une condition suffisante pour pouvoir construire des fonctions de Vanier exponentiellement localisées. Il y a en fait derrière ça un autre nombre, un autre invariant topologique, un invariant topologique Z2, qui empêche la vaniérisation de ce groupe de bandes isolées. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai décrit en détail dans le cours précédent. Voilà, une autre représentation de la chose. Vous voyez ici, il y a plus de bandes. Donc là, c'est représenté sur une échelle beaucoup plus grande. Ça, c'est des milliEV jusqu'à 200 milliEV. Et ça, c'est les petites bandes plates qui sont là. Alors, je reviens sur le comptage des bandes, parce que c'est quelque chose qui est quelquefois un peu confusionnant. Donc, on avait séparer le problème de manière complètement indépendante entre ce qui se passe au voisinage du point grand K d'une couche de moiré sous-jacent et ce qui se passe au voisinage du point grand K prime. Donc déjà, il y a un facteur 2, parce que chacun de ces points va générer un Hamiltonien de Bistresser-McDonald et va nous donner des bandes plates. Maintenant, considérons l'Hamiltonien de Bistresser-McDonald au voisinage donc d'un seul de ces points. Cet Hamiltonien agit sur ce spinner à quatre composantes, comme on l'a vu tout à l'heure, A1, B1, A2, B2, et donc, logiquement, on obtient quatre valeurs propres, donc quatre bandes. Donc, on devrait avoir 4 fois 2, c'est-à-dire 8 bandes. 8 bandes dans lesquelles je peux mettre des électrons de spin-up ou spin-down, donc on pourrait naïvement penser qu'on a 16 états. On peut remplir ça avec 16 électrons. Mais en réalité, quand j'ai dit qu'on générait des bandes plates, seulement 2 de ces 4 bandes sont des bandes plates. Il y a 2 autres valeurs propres qui sont séparées de ces bandes plates par un gap plus grand, qui est en fait de l'ordre de H bar VF delta K. Et donc, il n'y a que 2 bandes parmi ces 4 qui forment les bandes plates C égale moins 1 et plus 1 de ce système. Donc en fait, le comptage, c'est 2 bandes plates par vallée, plus le spin, d'accord ? Donc on a 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire qu'au total, on peut mettre 8 électrons dans ces bandes plates. D'où ce graphe, ce diagramme de phase qu'on a vu, par exemple, au début de ce cours et dans le séminaire des Fetoff, où si on compte les choses à partir du point de neutralité de charge, où on a 4 électrons dans ces 4 bandes plates, eh bien, le facteur de remplissage compté à partir de là va de moins 4 à 4, donc 4 trous ou 4 électrons par rapport à ce point de neutralité de charge. Donc ça, c'est le comptage des bandes. Alors, il y a évidemment tout un ensemble de symétries que cet Hamiltonien a. Je ne vais pas vous les détailler toutes, vous pouvez regarder ce slide plus en détail online. Il y a des symétries qui sont des symétries spatiales, évidemment les translations du réseau de moiré, il y a la rotation de 180 degrés par rapport à l'axe Z combinée avec la symétrie de renversement du temps, il y a quelque chose qui s'appelle la symétrie U1 par vallée. C'est simplement pour dire que comme on a découplé les deux vallées de chacun des feuillets de graphène, la charge et conservé indépendamment au voisinage de grand K et grand K'. Donc on a une conservation de la charge au voisinage de chaque vallée, et puis on a évidemment la symétrie de spin. Donc toutes ces symétries sont listées ici. Et vous voyez qu'ici, il y a une symétrie supplémentaire qui est en fait violée quand le tunneling du sous-réseau A vers le sous-réseau A est non nul. Et elle devient respectée, donc si sigma c'est la matrice qui agit sur AB, et tau c'est l'isospine qui agit sur un 2. D'accord ? Et le produit de ces deux, symétries, qu'on appelle la symétrie chirale dans ce contexte, n'est pas une symétrie du Hamiltonien de Bistritzer-McDonald, sauf quand WAA, l'amplitude de saut, est nulle. Donc ça, c'est facile de le vérifier. Bon, je vous montrerai les calculs plus tard. Que ça devient une symétrie dans cette limite. Or, quand on regarde cette structure de bande, il est quand même très tentant d'imaginer que la raison pour laquelle on a une bande presque plate, qui est évidemment un phénomène d'interférence des différents sauts entre eux, ce système, il a presque envie d'avoir une bande parfaite, une bande idéale, à la niveau de Landau, qui aurait une énergie cinétique nulle. Donc c'est très tentant de penser qu'il y a une symétrie sous-jacente qui est peut-être un petit peu violée dans ce modèle BM, ou dans ce calcul qu'on a fait, mais qui, si on la restaurait, vous donnerait un niveau de Landau complètement plat. Un niveau complètement plat, analogue à un niveau de Landau. Et c'est ça que je vais vous raconter dans quelques instants, c'est qu'effectivement, quand on regarde la limite WA tend vers zéro, on a cette symétrie supplémentaire qui est cette symétrie chirale, et que dans ce cas-là, on trouve que cette bande est exactement plate, c'est en fait un mode zéro d'un opérateur de Dirac, un peu similaire au calcul des états de bord dans le modèle de Holden que j'avais fait précédemment, mais là, ce n'est pas un état de bord, d'accord ? C'est encore un théorème de l'index sur les opérateurs de Dirac, qui fait que dans cette limite, il y a une bande idéale sans énergie cinétique qui se développe à E égale 0. Alors, avant de faire ça, je voudrais quand même revenir sur cette observation que j'avais faite tout à l'heure, qu'en fait, il y avait déjà des signaux expérimentaux de l'existence de ces bandes ultra-plates dans des très belles expériences de spectroscopie tunnel. Ici, vous voyez, cet article est un article de 2009 du groupe d'Eva Andrei à Rutgers, avec d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, les Castroneto et Lopez dos Santos, qui étaient les co-auteurs de l'article théorique que j'ai montré tout à l'heure, qui avait calculé la première correction perturbative à la vitesse, à la renormalisation de la vitesse des cônes de Dirac quand on twistait un peu. Donc ce 1 moins 9 alpha carré, hein, qui vient du développement de 1 plus 3 alpha carré, 1 moins 3 alpha carré sur 1 plus 6 alpha carré, le 1 moins 9 alpha carré, il était dans cet article sur le graphène twisté, mais pas l'angle magique. Dans cet article du groupe d'Eva Andrei, en isolant des petites régions de flocons de graphène, il y avait des régions qui présentaient un motif de moiré, et les spectres de spectroscopie tunnel sur certaines des zones de ces motifs de moiré montraient un pic très étroit qui correspond en fait à une sorte de singularité de Van Hoff au point M, je crois, qui est liée à ces bandes plates. Donc il y a des indications dans ces expériences très tôt, qui sont avant le modèle de Bistritzer-McDonald, de l'existence de ces bandes plates dans ces systèmes de moiré. Donc, je pense que ça, c'est un article historique qui est assez important à montrer. Donc je reviens maintenant à l'observation que je faisais avant, qui est qu'effectivement il y a une symétrie sous-jacente dans laquelle, quand on l'impose, la notion de bande plate devient particulièrement frappante. Et ça, c'est quelque chose qui a été montré assez vite après la découverte de la Supra en 2018 par cet article, Tarnopolsky, Krushkov et Ashwin Vishwanath à Harvard. Donc je vais appeler ce papier le papier TKV, qui montre que dans cette limite, ces bandes plates deviennent des niveaux parfaitement plats. Et en réalité, l'article qui est ici entretient une connexion assez remarquable avec un très ancien article d'Aronoff et Kacher qui étudie le spectre d'un Hamiltonien de Dirac dans un champ magnétique inhomogène dans l'espace. Donc, je ne sais pas si cette connexion avait déjà été faite dans cet article, mais les connexions existent. Et sur toutes ces... Alors, tout ça a lancé un assez... un domaine théorique qui est la recherche de systèmes sur réseau qui remplissent les conditions pour générer un niveau à la niveau de Landau, mais sans champ magnétique, parfaitement plat. Donc c'est ce qu'on appelle les bandes idéales, et je vous recommande en particulier les articles de Jay Wang, celui-là, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet, qui est donc la recherche de ces systèmes à bandes idéales. Alors, donc, petit prélude, je vais essayer de vous raconter en un slide, en gros, l'idée du papier de Aronoff Kacher. Donc, le problème d'Aronoff Kacher, c'est tout simplement un Hamiltonien de Dirac, donc voilà notre Hamiltonien, couplé à un champ magnétique, mais ce champ magnétique n'est pas homogène dans l'espace. Donc, s'il était homogène dans l'espace, j'aurais mes niveaux de Landau, mais il n'est pas homogène dans l'espace, il dépend de R. Et le théorème d'Aronoff-Kacher, c'est que bien que ce champ soit inhomogène dans l'espace, l'opérateur de Dirac associé à ce potentiel vecteur et ce champ magnétique, quel que soit B de R, a des modes zéro qui sont égaux à la partie entière de phi sur phi zéro, où phi est le flux moyen intégré sur l'espace, donc l'intégrale de B de R, et seul ce flux moyen détermine le nombre de modes zéro, et ces modes zéro existent quelle que soit la dépendance spatiale de B de R. Donc ça, c'est le théorème d'Aronoff-Kacher, et c'est très facile de montrer. Alors il y a des connexions évidemment directes avec les théorèmes de l'index sur les opérateurs de Dirac, mais le calcul est très simple. Vous introduisez le potentiel vecteur correspondant à B de R, et puis vous écrivez l'équation de Dirac, vous trouvez que il y a deux équations pour dA et dA croix qui se découplent pour F et G, et en insérant cet ansatz ici, donc si vous insérez dans cette équation l'ansatz que F de R, ça va être exponentiel de phi de R fois une fonction holomorphe de Z, donc ça commence à ressembler au niveau de Landau tel qu'on les avait vus. Dans le cas des niveaux de Landau habituels, on a exponentielle de moins module de z carré ou r carré sur 4L2 fois une fonction holomorphe de z. Ici, on généralise ça où on a une fonction phi de r quelconque. Vous insérez ça dans cette équation et vous trouvez que, effectivement, on peut satisfaire cette équation pourvu que phi satisfasse à l'équation qui est là, qui est tout simplement une équation de Poisson pour phi avec un membre de droite qui est donné par B de r. Et pourvu que cette équation de Poisson ait une solution, eh bien, cette expression est solution de l'équation de Dirac à énergie nulle. Bien entendu, quand B de R est uniforme, vous retrouvez que la solution de l'équation de Poisson, c'est tout simplement ça. Et donc, vous retrouvez votre forme habituelle des niveaux de Landau, exponentielle de moins B Z carré sur 4 fois H de Z. Bon là j'ai normalisé les choses de manière un peu bizarre, mais ça serait z carré sur 4LB la longueur magnétique. Alors vous voyez que dans ce cas là F et G découplent complètement, mais quand on va écrire les équations analogues pour le modèle de Bistritzer-McDonald, en fait ils sont couplés via le terme de tunneling T de R, et c'est ce qu'on va voir dans un petit instant. Donc maintenant on va généraliser ça à l'Hamiltonien de Bistritzer-McDonald dans la limite où WA tend vers 0. Donc dans cette limite chirale, l'Hamiltonien 4-4 qu'on avait, il se découple en deux blocs parce que sigma z tenseur tau z, donc celui-là qui agit sur AB, celui-là qui agit sur les couches, devient une symétrie du problème. Et donc ça nous donne deux blocs découplés dans la matrice. Et cette symétrie, elle impose que le spectre de mon Hamiltonien dans la limite chirale a une symétrie particule trou exacte, c'est-à-dire qu'à tout niveau, à une énergie E, va correspondre à un niveau à une énergie moins E. Donc en jargon de physicien, ça dit que le spectre est particule trou symétrique. Donc elle a une symétrie particule trou. Et en particulier, on va voir qu'il peut y avoir des modes 0 à E égale 0. Mais à la différence du cas de Aronoff-Kacher, où ces modes zéro existaient toujours, il y a en fait une condition de compatibilité pour que les fonctions d'onde associées à ces modes zéro à énergie nulle soient effectivement normalisables, donc que ce soit des fonctions admissibles. On va voir ça dans un petit instant. Donc maintenant, si je regarde l'opérateur de Dirac qui correspond à un de ces blocs de 2, vous voyez que, à la différence du cas de Aronoff-Cacher, il y a maintenant un terme off-diagonal qui est le potentiel de moiré et somme de exponentielle IQR qui couple les deux fonctions. Donc cet opérateur devient un opérateur qui agit simultanément sur F et G. Et donc, si vous déroulez ces deux équations, vous obtenez les deux équations qui sont ici. Ces deux équations, vous pouvez les combiner en une seule. Et vous voyez que, de nouveau, si vous insérez un ansatz de ce type, f égale exponentielle de phi h de z, vous pouvez satisfaire ces équations, pourvu que phi, de nouveau, satisfasse une équation de Poisson. Alors là, on a modifié un tout petit peu les choses pour que la valeur moyenne, l'intégrale sur R de cet objet, soit nulle. Donc le flux total est zéro. Si B était 3 alpha 2, exponentielle de phi deviendrait juste cette fonction-là. Donc ici, on a cette équation de Poisson pour phi, et donc a priori, on a l'impression qu'on a trouvé des modes zéro, quelle que soit la valeur de alpha, quelle que soit U de R. Mais en réalité, le problème, quand on fait ça, vous voyez, c'est que G et F sont reliés. Alors, je ne sais pas où j'ai écrit ça, quelque part, par là. Il y a une relation entre G et F. Où est-ce que je l'ai mise? Je ne sais plus où elle se cache. Oui, ici, on peut l'exprimer de la manière suivante. Et vous voyez que G fait intervenir la fonction H de Z que j'ai introduite tout à l'heure, mais aussi le potentiel de moiré ici au dénominateur. Et donc cette fonction, elle est mal définie si cet objet s'annule. Et effectivement, si vous regardez cette expression qui est là, et que vous la j'avais préparé un plot, mais je ne l'ai pas mis dans les slides, si vous regardez cet objet ici, qui a la périodicité du réseau de moiré, vous verrez qu'elle s'annule. C'est une fonction qui s'annule en des points R bien déterminés, qui sont en fait fixés par symétrie, mais peu importe. Vous pouvez regarder l'article de TKV pour voir exactement où sont ces points. Donc cette fonction s'annule. Donc il faut imposer que la fonction h de z qui est ici est aussi un zéro qui coïncide exactement avec la position du zéro de U. Alors ça impose des conditions sur les alphas pour lesquels c'est possible, qui évidemment coïncide avec la condition que le déterminant de l'opérateur de Dirac dont je présentais tout à l'heure soit égal à zéro. Et en fait, il y a un théorème qui est dû à Adamard qui dit que ce déterminant doit s'exprimer comme une fonction exponentielle fois un polynôme de alpha carré. Bon, il y a des mathématiciennes dans la salle, donc je vais être très discret sur ce sujet. Mais la résolvante de cet opérateur de Dirac par des considérations mathématiques générales peut s'exprimer de cette manière-là. Mais une autre manière de voir les choses, c'est que c'est imposé par la normalisabilité de cette fonction G et la coïncidence du 0 de H et du 0 de U. Et ça nous fixe des valeurs de alpha pour lesquelles les fonctions d'onde associées à ces modes zéro formels qu'on a construit en gros par la méthode Aronoff-Cacher, soit effectivement normalisable. Et ces valeurs sont ici. Alors, elles ne coïncident pas exactement avec les valeurs du modèle BM, mais elles vous donnent une compréhension de pourquoi ces bandes sont si plates. Parce que dans cette limite, ce n'est pas des bandes dont la largeur de bande est faible, c'est des bandes dont la largeur de bande est zéro. Qui sont exactement et égales 0. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, les analogies entre les niveaux de Landau, par exemple, sur le tore, et le TBLG dans la limite chirale. Ce qui joue le rôle du champ magnétique uniforme, c'est l'intégrale de alpha 2 U de R carré sur l'ensemble du système, qui a donc une valeur moyenne qui est donnée par 3 alpha carré, Il y a des différences. Les deux équations pour les composantes F et G des modes 0, donc les modes 0 qui annulent D et décroît, sont indépendantes dans le cas d'Aronoff-Kacher. Elles sont couplées par U étoile ici. C'est ça qui va nous imposer la condition de normalisabilité. Mais le reste est très analogue. Si vous formuliez le problème sur un tore, la fonction d'onde que vous obtenez est une fonction doublement périodique, analogue à celle qu'on avait présentée pour les niveaux de Landau sur le tore, donc des fonctions θ, etc. Voilà. Dans le cas d'Aronoff-Kacher, il n'y a pas de condition supplémentaire de normalisation. Ici, il y en a une parce que G et F sont couplés et que les deux zéros doivent coïncider. Alors, voilà quelques graphes que j'ai extraits de l'article TKV. Donc, voilà ce qui se passe au premier angle magique de cette limite chirale. Et donc, vous voyez maintenant que ces bandes qui étaient quasi plates dans le modèle BM deviennent exactement plates, sans énergie cinétique, dans ce modèle. Et on peut regarder comment la largeur de bande de ces bandes dépend de alpha. Donc, voilà, pour alpha non magique, on n'a pas une bande exactement plate. Pour alpha magique, on a une bande exactement plate. Ça, c'est un plot qui représente le gap ici entre cette bande et la bande immédiatement au-dessus. Et ici, il y a une comparaison entre les angles magiques dans la limite chirale et les angles magiques dans la limite isotrope WA égale WAB du modèle BM. Vous voyez que ce n'est pas exactement les mêmes valeurs, hein, en particulier à grand alpha, ces valeurs diffèrent assez fortement. Le premier angle est très proche, et dans cette limite chirale, en fait, il y a une saturation. Si vous regardez à la limite N grand de ces alpha, ils sont séparés par un intervalle régulier, comme c'est montré ici. Donc, ceci clôt ce que je voulais vous dire de manière un peu qualitative quand même sur la limite chirale et la correspondance avec Aronoff-Kacher. Et je trouve que cette limite, elle illustre magnifiquement la possibilité de... Enfin, ce qui est derrière, en fait, la symétrie sous-jacente, un peu brisée dans le modèle BM, qui est sous-jacente à l'existence de bandes presque plates, qui deviennent plates dans cette limite. Alors, maintenant, je voudrais consacrer la dernière demi-heure du cours plus aux effets d'interaction, aux effets de corrélation. Et pour faire ça, on a souvent besoin, pas nécessairement, mais on a souvent besoin de construire un modèle effectif dans des orbitales de Vanier localisées. Alors, évidemment, on peut aussi vouloir faire des calculs numériques, par exemple, directement dans le continu. Et il y a toute une industrie sur ce sujet, en particulier pour rechercher des fonctions d'onde variationnelles par Monte Carlo quantique, directement en utilisant un modèle BM plus interaction dans le continu et en construisant des fonctions variationnelles, les plus modernes et utiles actuellement étant celles qui sont construites avec des architectures de réseaux de neurones dont j'ai parlé dans un cours il y a 3 ans, dont je reparlerai sûrement prochainement. Mais ici, je vais prendre un point de vue différent qui est plus le point de vue souvent utilisé en physique des électrons corrélés, en particulier quand on veut regarder la spectroscopie, les phénomènes de température finie, qui est de construire un modèle avec des fonctions de Vanier localisées. Et on a vu que ça, c'était difficile dans ce cas-là, puisqu'il y a cette topologie fragile qui interdit l'existence de fonctions de Vanier exponentiellement localisées si on se concentre uniquement sur ces deux bandes qui ont des nombres de Chern opposés, mais qui sont néanmoins non vaniérisables. Alors, il y a différentes stratégies qui ont été proposées pour contourner ce problème. Elles consistent toutes à introduire des bandes supplémentaires. Et donc, voilà des exemples. Non, ça c'est les papiers de topologie fragile. Ça, c'est un exemple où la construction de fonctions de Vanier en introduisant plus de bandes a été proposée. Je vais me concentrer dans la suite sur un modèle qui a été introduit par Sang et Bernoulli, qui s'est révélé très fructueux, qui est un modèle en fait, qui établit une connexion avec les système à fermions lourds, dans un contexte donc de bandes topologiques. Alors, les systèmes à fermions lourds, je vous rappelle, on en a parlé dans des cours il y a bien longtemps, c'est des systèmes dans lesquels il y a deux types d'électrons. Il y a des électrons qui, dans le contexte des vrais composés de fermions lourds, viennent en général d'une orbitale F très localisée, et puis des électrons très délocalisés qui viennent d'une orbitale, d'autres orbitales plus délocalisées dans l'espace. Et ces deux orbitales s'hybrident entre elles avec des effets d'interaction très fortes sur les orbitales F, qui donnent donc des effets de corrélation très fortes, des masses effectives des quasi-particules très fortes, d'où le nom fermion lourd. Le modèle de Song et Barnabig et d'autres modèles reliés établissent une connexion avec cette physique des fermions lourds. Donc l'idée en fait de ce modèle, c'est d'introduire maintenant, donc on ne peut pas vraiment vanieriser ces deux bandes de manière isolée, mais on va introduire deux types d'orbitales, des orbitales qu'on va appeler F et C, par analogie avec cette physique des fermions lourds. Ce ne sont pas du tout les orbitales F, hein, mais on va les appeler F. Elles n'ont pas la symétrie d'une orbitale F. Elles ont en fait la symétrie d'orbitales px plus ou moins ipy. Grâce à l'introduction de ces deux types d'orbitales, on va pouvoir construire une représentation de Vanier de ces bandes, mais en introduisant, en gardant dans le modèle des bandes qui sont des bandes non topologiques, mais qui sont en plus dans le système. Donc les orbitales F qui permettent de vanieriser ces bandes sont concentrées sur ces régions AA, et puis les orbitales C sont plus délocalisées. Et ce que vous voyez ici, c'est une fois cette construction faite, je ne vais pas la décrire en détail, une fois ces orbitales F construites, vous voyez ici le caractère, donc la taille du point rouge sur ce graphe représente le caractère de la bande par rapport aux orbitales F. Donc c'est le module carré de la projection de l'onde de Bloch considérée sur l'orbitale en question. Donc c'est module carré de F psi canu module carré qui est la taille de ce point. Donc vous voyez que l'essentiel de ces bandes plates ont un caractère F, sauf ici au voisinage du point gamma où le caractère C est plus proéminent. Donc muni de ce modèle, on peut maintenant jouer les jeux habituels de traitement des corrélations. Donc ce modèle, il a d'une part un terme quadratique, un terme de sans interaction, et puis on peut lui rajouter des termes d'interaction. Voilà la tête des termes sans interaction. Donc il y a un niveau localisé pour les orbitales F qui correspond à la position de ce niveau ici. Il y a un Hamiltonien pour les électrons C, qui sont en gros un terme de Dirac avec une masse qui ouvre ce gap qui est là. Voilà des paramètres censés être approximativement réalistes pour TBLG aux angles magiques. Le point qui est crucial, c'est que CF et CC sont hybridés entre eux, c'est-à-dire il y a un terme de saut qui convertit un F en un C, comme dans les composés de fermions lourds, et l'amplitude de cette hybridation, elle s'appelle ici gamma, elle est de l'ordre de 25 milliélectronvolts. Donc ça, c'est la partie quadratique de l'Hamiltonien. Et qu'en est-il de la partie des interactions de cet Hamiltonien? Donc les interactions, ça va être des éléments de matrice de l'interaction de Coulomb écrantés. Écrantés par quoi? Dans ce contexte, donc j'ai parlé tout à l'heure de physique des dispositifs, il y a une grille en bas, une grille en haut, comme vous voyez ici, qui permettent de contrôler les caractéristiques électrostatiques du système. Et en fait, l'écrantage dans ces systèmes, il est largement dû à la présence des grilles dans le dispositif. Et on peut se donner un modèle simple de l'interaction de Coulomb écranté par ces grilles qui est écrite ici. Et quand on regarde les éléments de matrice de cette interaction dans ces orbitales F et ces orbitales C, on voit que l'interaction dominante, ça va être un terme de densité sur site, donc un terme à la Hubbard, qui est estimé comme étant de l'ordre d'environ 60 milliélectronvolts. Il y a aussi un terme NFNC, et puis il y aurait des termes qui agissent sur les électrons C eux-mêmes et des termes d'échange F croix F, C croix C avec des indices différents ici. Donc il y a toutes sortes de termes, c'est un hamiltonien qui est assez compliqué, mais dans un premier temps, on va surtout se consacrer sur ce terme de Hubbard, on-site, ici. Alors vous voyez qu'une fois qu'on a fait ça, il devient extrêmement naturel pour étudier ce modèle d'utiliser ma technique favorite, la théorie du champ moyen dynamique. Et il y a effectivement toute une industrie qui s'est développée à partir de ce modèle pour en tirer la physique en utilisant l'approximation du champ moyen dynamique, donc je vais pas décrire ici. Voilà l'article dont je suis un des co-auteurs que j'ai montré au début du cours. Ça, c'est un article beaucoup plus récent de Lorenzo Crippa qui introduit, et collaborateur, qui introduit également les effets de relaxation et de contraintes qui sont importants pour cette physique du graphène. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, il y a d'autres travaux reliés, par exemple dans le groupe de Lenny Baskones, qui a aussi utilisé des MFT dans ce contexte, sur un modèle légèrement différent, mais similaire. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer quelques résultats expérimentaux. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais juste quelques résultats expérimentaux et comment ils se comparent avec les calculs théoriques qui sont faits dans cette perspective-là. Donc, une des choses qui est vraiment magnifique dans ce domaine et qui résulte en fait du fait qu'on combine la physique des matériaux avec une physique de dispositif, avec des grilles contrôlables, c'est le fait qu'on peut par exemple mesurer la compressibilité électronique du système. Qu'est-ce que c'est la compressibilité électronique ? C'est la manière dont la densité de porteur, donc ici ça serait le remplissage, le facteur de remplissage nu, varie quand on change le potentiel chimique qui est donc contrôlable par les potentiels électrostatiques qu'on contrôle avec les top et back gate de ce dispositif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant parce que ça permet de beaucoup mieux comprendre les expériences de transport. Quand vous mesurez une résistivité et que cette résistivité a une dépendance en température bizarre, vous ne savez jamais vraiment, la résistivité c'est juste un nombre, donc ce n'est pas très facile à interpréter, vous ne savez jamais vraiment d'où vient cette dépendance en température. Est-ce qu'elle vient de la compressibilité du système? Est-ce qu'elle vient de la constante de diffusion? Si vous vous référez à la relation d'Einstein, il y a une relation exacte qui exprime la conductivité comme le produit de la compressibilité électronique par la constante de diffusion. Et on voudrait bien savoir si, par exemple, dans le régime de métal étrange, la dépendance en linéaire en température de la résistivité, elle vient de D ou elle vient de kappa. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait, j'en ai parlé dans un cours précédent, qui est très bien fait dans les expériences d'atomes froids. Dans les expériences d'atomes froids, il y a un célèbre article de Wassim Bakker, par exemple, et Frédéric travaille aussi sur des mesures de conductivité optique dans les atomes froids. On peut, dans les dispositifs d'atomes froids, introduire une petite perturbation du potentiel du réseau optique, regarder comment cette perturbation induit une perturbation de densité qui relaxe, et en déduire une constante de une compressibilité, mais aussi une constante de diffusion suivant la dynamique de cette relaxation. Donc on a les deux ingrédients, et en fait c'est comme ça qu'on reconstitue, c'est une manière de reconstituer la résistivité du système. Donc en mesurer séparément kappa et D. Jusqu'à une époque récente, à ma connaissance, c'était très difficile de faire ça dans le contexte de la physique de la matière condensée, mais maintenant, grâce à ces dispositifs, on peut faire ça, et dans le groupe de Pablo Jarillo Herrero MIT et Sal Ilani au Weizmann, ils ont développé cette technique qui permet d'obtenir la compressibilité électronique du système. Donc, on rattrape les atomes froids là, dans la capacité à faire des mesures fines de ce type. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est la compressibilité inverse. Donc, la compressibilité, c'est dN dμ. Ici, c'est dμ dN, qui est représentée en fonction du facteur de remplissage. Alors là, j'ai juste extrait un graphe expérimental, en fait, dans cet article et dans celui que j'ai cité avant. Est-ce que je l'ai cité ? J'aurais dû le mettre également. Il y a un autre article important qui a mesuré la compressibilité également assez tôt. Il y a toute une étude en champ magnétique. Ici, j'ai isolé une des figures proches de l'angle magique en champ magnétique nul. Et donc, ce que vous voyez, c'est que au remplissage commensurable, ici particulièrement là, etc., vous avez une compressibilité qui est, ça c'est l'inverse, qui est très très petite. Donc effectivement, un état qui est quasi isolant, incommensurable à basse température, quasi isolant, incompressible, pardon, à basse température. Vous voyez ici aussi, et ça pourrait vous inquiéter, que cette compressibilité électronique a une fâcheuse tendance à devenir négative dans cette région. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une compressibilité électronique négative, ça devrait conduire immédiatement à une instabilité du système. Mais en réalité, il ne faut pas oublier ici qu'il y a des grilles. Il y a la back gate et la top gate. Et en fait, ce qui est important, c'est que la compressibilité complète du système soit positive. Ce qui est le cas ici, puisque le système est dans une phase qui existe. Et donc, en fait, le système est contraint à être stable par les grilles. Donc, voilà la dépendance en feeling de la compressibilité qui, vous voyez, ici est très riche. Ça veut dire que mu versus nu, qui est la chose qui est mesurée, en fait, pour obtenir ceci par dérivation, à ces paliers, comme ça. Et, donc là, je reviens sur ce point que je disais tout à l'heure, qu'en fait, on peut, dans ces systèmes, mesurer évidemment le transport, on peut mesurer la compressibilité, on peut donc en déduire la constante de diffusion. Et donc, vous voyez ici, ça, c'est ces régimes, donc ça, c'est un article toujours du groupe de Pablo MIT, dans lesquels on voit ces résistivités qui ont des dépendances, alors pour ces courbes pas exactement linéaires, pour cette courbe un peu plus linéaire en température, et on veut savoir si ça vient de la compressibilité ou de la constante de diffusion. Et donc, vous voyez ici la mesure de la compressibilité. Vous voyez que cette compressibilité est quasi constante en température. Donc, on peut en déduire qu'effectivement, l'action est bien dans la constante de diffusion du système pour au moins l'essentiel de ces courbes-là. Ça, c'est un article quand même d'il y a déjà un certain temps. Il y a des meilleures mesures depuis. Alors, je reviens au calcul théorique et au calcul qui permettent de regarder la compressibilité du système en fonction du remplissage. Donc voilà dans ces méthodes DMFT appliquées à ce modèle de fermion topologique, un calcul de la compressibilité du système qui est représenté ici. Mais d'abord, ce qui est représenté là, c'est séparément l'occupation de l'orbital F et l'occupation de l'orbital C en fonction du remplissage total. Et vous voyez que la manière dont ça marche, ce truc-là, c'est que quand on passe d'une fraction entière à une autre fraction entière, on remplit graduellement l'orbital C, et puis quand on arrive à ce point, il y a un reset, NF augmente d'une unité, donc ici, donc vous pouvez déjà regarder ici les couleurs légères, donc le bleu clair et le orange clair. Ça, c'est les calculs très simples que vous pouvez faire analytiquement dans le cas où il n'y a pas d'hybridation entre les F et les C. Donc, c'est une sorte de limite atomique du système. Et donc, vous voyez que dans ce cas, c'est une sorte d'escalier de blocage de Coulomb, si vous voulez. Les F varient par palier, donc 1, 2, 3, etc. Donc, on remplit par saut discret les orbitales F. Et puis, à chaque fois, les orbitales C ont un reset à 0. Et puis, quand on introduit l'hybridation, donc là, il faut les calculs DMFT pour faire ça, cet escalier est évidemment lissé, mais néanmoins, cette physique des cascades est préservée. Et effectivement, ces cascades ont été observées expérimentalement. Quand elles ont été observées expérimentalement, elles ont en fait été assignées à l'existence de transitions de phase vers des phases ordonnées à basse température. Mais en réalité, ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'on voit ces cascades même à des températures beaucoup plus grandes que les températures d'ordre. Et c'est quelque chose qui est parfaitement bien décrit, enfin qui est bien décrit par ce modèle de topological heavy fermion traité avec ces approches de champ moyen dynamique. On n'a pas besoin de postuler le fait qu'on est dans une phase avec de l'ordre à longue portée pour comprendre ces cascades. Alors ici, vous voyez une comparaison entre les calculs qui sont les courbes bleues, ici, de la compressibilité inverse en fonction du facteur de remplissage, comparé à différentes expériences. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a trois résultats expérimentaux différents qui sont en très bon accord les uns avec les autres à nu négatif, mais qui ont un certain nombre de différences entre elles à nu positif. Et vous voyez que qualitativement, c'est pas trop mal, mais quand même que les ordres de grandeur sont pas très bons. En particulier, les amplitudes de variation de la compressibilité sont beaucoup plus grandes que ce qui est observé expérimentalement. Et ça, c'est quelque chose, c'est une comparaison qui est, peut être considérablement améliorée quand on introduit les effets de contrainte et de relaxation. Donc, je vous renvoie à cet article récent de Lorenzo Crippa et collaborateurs, dans lesquels ils ont montré qu'en introduisant les effets de relaxation, on peut obtenir un meilleur accord avec les mesures de compressibilité expérimentale. Et en fait, il y a même des... Giorgio Sangiovanni m'a dit hier, c'est non publié, qu'il y a même une amélioration encore plus substantielle quand on introduit d'autres interactions dans ce modèle. Donc on va graduellement vers un meilleur accord avec les expériences. Mais le phénomène qualitatif, il est clairement là. Alors un autre effet assez beau dont je voulais vous parler, qui a été aussi découvert dans ces systèmes, c'est un analogue de l'effet Pomeranchuk dans l'hélium 3. Qu'est-ce que c'est l'effet Pomeranchuk? C'est le fait que quand on prend de l'hélium 3 pas trop loin dans l'état liquide, mais pas trop loin de sa pression de solidification, on peut en fait solidifier le fluide quantique hélium 3 en chauffant. Donc c'est quand même pas tous les jours qu'on voit un système qui devient solide quand on le chauffe. Et la physique de cet effet, dont j'ai parlé dans des cours précédents, c'est que quand on augmente la température, on commence à casser les quasi-particules du liquide de Fermi. Ces quasi-particules se convertissent en moments locaux, puisque l'hélium 3 a un spin 1,5, donc il y a des moments locaux qui apparaissent, et ces moments locaux conduisent à une entropie, disons, de l'ordre de log 2, et il devient donc plus favorable de localiser ces électrons pour faire apparaître cette entropie log 2 à température finie. L'entropie gagne sur l'énergie et on solidifie le système en chauffant. Ça, c'est la physique de l'effet Pomeranchuk. Et en fait, on voit un phénomène tout à fait similaire dans ces systèmes. Et ça, c'est aussi un exemple qui montre que ces systèmes se rapprochent des simulateurs quantiques dans lesquels on peut faire une mesure de l'entropie du système. Comment on fait ça? On utilise une relation de Maxwell. Puisqu'on peut mesurer le potentiel chimique grâce à ces dispositifs électrostatiques en contrôlant les grilles, on peut, si on est un bon expérimentateur ou une bonne expérimentatrice, mesurer la dépendance en température du potentiel chimique et utiliser cette relation de Maxwell, qui est aussi quelque chose qui est utilisé dans les dispositifs quantiques de type point quantique, de type quantum dot, par exemple par Frédéric Pierre au C2N ou Josh Falk à UBC, dans lesquels on utilise cette dépendance en température du potentiel chimique pour remonter à l'entropie du système. Et donc ça, c'est cet article de Rosen et Tal que j'ai mentionné ici. Il y a eu deux articles qui, à peu près au même moment, ont montré cet effet Pomeranchuk, dans lesquels l'entropie à une certaine température, pas très basse, 10 Kelvin, a été mesurée en fonction du facteur de remplissage. Et en agissant avec un champ magnétique, on peut voir que cette entropie est quenché, donc diminue quand on applique un champ magnétique, ce qui suggère immédiatement que c'est une entropie qui a au moins partiellement comme origine les spins du système. Donc cet effet, c'est le fait qu'à basse température, on a un métal, on a vu ça dans le séminaire des Fetoff, un métal cohérent avec des bonnes quasi-particules, peut-être une résistivité en T carré, et puis quand on chauffe le système, ces quasi-particules se convertissent en moments locaux et deviennent un système de grande entropie magnétique. Donc c'est la conversion des quasi-particules en moments locaux quand on augmente la température, et ces moments locaux étant plus localisés que les quasi-particules de basse température. J'en profite au passage pour signaler qu'en fait, la possibilité d'un effet Pomeranchuk dans un contexte purement électronique, c'est une prédiction de la théorie de champ moyen dynamique qui date de 1993, et donc on n'a pas attendu le graphène pour... comprendre que cet effet pouvait survenir dans les effets purement électroniques. Vous voyez ici, dans ce très vieil article, un graphe qui montre la dépendance linéaire en température de l'entropie. Ça, c'est le régime auquel vous vous attendez dans un liquide de Fermi, avec une chaleur spécifique linéaire en T. Et puis, quand on augmente la température, ces quasi-particules se mettent à devenir plus incohérentes. On atteint une entropie qui est une grande entropie, qui correspond en gros à log 2, donc aux deux états de spin de mes quasi-particules. Et en fait, la physique de la localisation par chauffage, elle se voit très bien quand on calcule la double occupation du système, puisque vous voyez, vous avez ici cet effet que quand vous chauffez le système, la double occupation diminue, ce qui veut dire que les particules se localisent plus. Et en fait, ces deux effets sont reliés, puisqu'il y a une autre relation de Maxwell qui relie la dérivée en température de la double occupation, dans le modèle de Hubbard, à moins la dérivée de l'entropie par rapport à U. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a utilisé après dans le contexte des atomes froids avec Félix Werner pour proposer des méthodes de refroidissement adiabatique basées sur cet effet Pomerantchuk fermionique. Voilà, donc cette physique de l'effet Pomerantchuk, c'est cette conversion des quasi-particules en moments locaux quant au chauffe. Et le point remarquable, c'est que dans ce régime où on n'a plus des très bonnes quasi-particules et on a une grande entropie, on peut continuer à avoir du transport métallique, c'est-à-dire des rho dt positifs. On n'a pas nécessairement un comportement isolant de la résistivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi calculé il y a longtemps par les approches des MFT. Vous pouvez regarder cet article, par exemple. Et tout récemment, il y a des expériences sur les conducteurs organiques bidimensionnels, d'autres familles de métaux à deux dimensions, dans lesquelles le groupe d'André Pustugov à Vienne ont fait des mesures conjointes de RMN et de transport sur ces matériaux organiques bidimensionnels qui ont montré que quand on atteint, qu'on passe graduellement d'un système où il y a des bonnes quasi-particules à basse température à des systèmes où il y a des moments locaux détectés par RMN à plus haute température avec un comportement de la résistivité qui a aussi été analysé dans cet article. Donc voilà, en utilisant ces méthodes des MFT sur le modèle de fermi-Lourdes topologique, un calcul de l'entropie à haute température, ça veut dire de l'ordre de 10 K, en fonction du facteur de remplissage. Donc vous voyez ces grandes entropies dans ce régime de relativement haute température. Donc quand je dis haute température, hein, il faut vous souvenir que la largeur de bande de ces systèmes, c'est quelques millivolts. Hein. 1 millivolt, c'est 10 Kelvin. Donc on est à des températures de l'ordre de la largeur de bande. Pour faire la même chose dans un système corrélé comme un oxyde, il faudrait chauffer le système jusqu'à 15 000 ou 20 000 Kelvin. Et il aurait fondu depuis longtemps. Donc ça, c'est une belle illustration du fait qu'on peut aller regarder des régimes qui sont inaccessibles dans d'autres systèmes. Donc vous voyez ces régimes de grande entropie. Et la courbe en orange, c'est une courbe obtenue dans le modèle qui ne tient pas compte des effets de contrainte et de relaxation. Et dans l'article plus récent qui est ici, que j'ai cité déjà tout à l'heure, ils ont tenu compte des effets de relaxation. Et en fait, ce qu'on peut montrer dans ce cas-là, c'est que ces effets de relaxation ouvrent un gap dans la structure de bande de mes bandes plates, de sorte que, au final, par exemple, au remplissage nu égale 0 qui correspond au point de neutralité de charge où il y a 4 électrons, on remplit exactement 4 bandes, et il y a 4 bandes qui sont vides au-dessus du gap, de sorte que l'entropie devient 0. Donc il y a une évolution de la courbe d'entropie en fonction de la température, depuis un régime haute température de ce type, où les effets de contrainte et de relaxation ne sont pas très importants, vers un effet où, à basse température, ces effets deviennent importants, une évolution de l'entropie qui suit cette évolution-là. Et ça, c'est quelque chose qui a été récemment observé expérimentalement, de nouveau dans le groupe d'Eva Andrei à Rutgers, où vous voyez, toujours en reconstituant la dépendance en température du potentiel chimie, vous voyez ici une évolution de l'entropie en fonction du remplissage à haute température et à plus basse température, où on a tout à fait ce type de comportement ici. Ici, c'était une courbe extraite de ce même article expérimental qui vous montre l'entropie en fonction de la température, qui a ces paliers d'entropie qui correspondent à différents nombres de degrés de liberté actifs dans le système dépendant de la température. Bon, j'ai déjà un peu dépassé mon temps. Je vais m'arrêter là. Il y a évidemment des grandes questions ouvertes dans ce domaine. On comprend quand même pas mal de choses maintenant du point de vue théorique en liaison avec les expériences, mais peut-être deux des grandes questions les plus ouvertes, comme d'ailleurs dans les cuprates, c'est quelle est l'origine du métal étrange, pourquoi il y a ces régimes de transport où la résistivité est, disons, quasi linéaire en température, qu'est-ce qui crée ça? Dans le contexte de TBLG, il y a encore des forts débats pour savoir si les phonons jouent un rôle. Un débat qui, dans le contexte des cuprates supraconducteurs, est plus ou moins mort. Mais là, il joue encore un rôle. Et quel est le mécanisme pour la supraconductivité? De nouveau, dans le contexte des cuprates supraconducteurs, je pense qu'il y a quand même un assez grand consensus que c'est une supraconductivité d'origine purement électronique liée au super-échange. Mais dans le contexte de TBLG, c'est encore une question débattue. Est-ce que les phonons jouent un rôle ou non? Quelle est la symétrie du paramètre d'ordre supra? Donc ça, ce sont des questions ouvertes et intéressantes que les jeunes dans cet amphi pourront résoudre. Voilà, ben, c'est la fin de ce cycle de cours et j'espère que vous avez aimé.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.